suffit d'accepter uniquement la Torah, écrite. Donc vous voyez déjà le renversement, c'est-à-dire pas renversement, Alchir nous dit, lorsque vous lisez Tanhuma, ne projetez pas vos propres a priori. Parce que nous lisons la Gemara, nous disons, si Dieu a forcé Israël, c'est qu'il ne voulait pas. Mais où c'est marqué dans la Gemara, c'est qu'il ne voulait pas? Nous relirons la Gemara. Nous lirons d'abord demain Gemara. C'est vraiment le texte le plus important. Nous le relirons, j'espère, jeudi, avec les autres commentaires. Mais où est-il marqué? Relisez-le vous-même. On l'a traduit 5-6 fois hier, vous êtes capable maintenant de le lire tout seul. C'est marqué quelque part qu'il ne voulait pas. Est-ce que Rachid est quelque part qu'il ne voulait pas? Le Tosafot dit même qu'on a vu au début de la soirée, parce qu'il ne voulait pas, il dit Dieu avait peur qu'ils aient peur de ce grand feu dans lequel ils sont morts de peur. Ils sont littéralement morts et ressuscités. Donc, c'est marqué une fois qu'il ne voulait pas. Tanhuma dit quoi? C'est la Torah écrite. C'est vrai qu'ils ont dit tout de suite, ah, là c'est bénichement, on ne veut même pas savoir ce qu'il y a dedans, on prend, Dieu a donné. La Torah orale, qu'est-ce qu'ils ont dit? La Torah orale, Dieu a dû les forcer. Est-ce que c'est marqué qu'il ne voulait pas? C'est nous qui imaginons que dès qu'on nous force, c'est qu'on ne veut pas. Donc voilà, il y a un exemple, la nécessité de lire les textes sans a priori et en voyant ce que les sages d'Israël, comment ils savent lire. Alors si vous voulez, en résumé, parce qu'il est 8h15, je ne vais pas vous laisser avec une nourriture spirituelle seulement, nous avons vu que Torah et Balpé, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui.
Tu les forces à arrêter, mais c'est pas qu'ils veulent pas.
Moi je veux continuer, moi je ne mange pas. Je ne mange pas avant la conférence. Vous avez vu, c'est Tsar Gadol. Vous avez vu qu'il faut peiner. Il faut se tuer soi-même. Ça veut dire qu'il faut à la fois, et ça c'est très important, et ça rejoint tout ce que dit Rav Ashkenazi, il faut supprimer, tuer en soi son équation personnelle, son ego. Nous avons vu ensemble ça, d'ailleurs, on en a parlé avant le séminaire, ça. Son ego, tuer son ego. Ça veut dire qu'au niveau personnel, au niveau moral, comme le disait Rav Rotenberg, vous pouvez rappeler, il faut donc tuer en soi ce qu'il y a de Yetzerara, ce qu'il y a de matériel animal, pour arriver à le transcender. Ça veut dire que le sham, quand j'ai rencontré ce sham, moi, il me semblait tout de suite, et juste par Kuma, ça fait tilt pour moi, que ce sham, que je connais en tant que Kuma, bien, c'était l'éclairement de la Gemara. Mais je me suis dit, je n'ai pas le droit d'enseigner cela, ou même de le croire, tant que je n'ai pas une preuve. Ça, c'est l'impression personnelle. C'est moi qui ai l'impression. C'est peut-être vrai. Et alors, je n'avais pas trouvé. Alors, j'ai demandé à mon rabbi, à Rotenberg, bon, comme ça, mais en général, je le prends en traître. C'est-à-dire, je ne lui prends pas à préparer. Je viens en disant, j'ai un problème, moi, après le cours de Gemara ou avant. Bon, j'ai une question, je lui montre ça, qu'est-ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Bon, il m'a dit, bon, dans la Gemara Shabbat, Sham, là sera votre tombeau. Qu'est-ce que ça veut dire, Sham? Il m'a dit, Sham, c'est Olam Gashmiut. Ça veut dire le monde de la matière. Et il m'a donné une référence tout de suite. Il m'a donné un Rashi dans Baïtra. Quand je suis venu chez moi, j'ai mis une demi-heure pour comprendre. J'aurais jamais compris tout seul ce Rashi, qui montre que quand on dit Sham, il s'agit de la nature de quelque chose qui est dévalorisé. C'est à propos de, après la mort de Dieu, lorsqu'on enlève, on vient les mettre à Sham, les vêtements. Tu vois? Alors, et ce Rashi-là, c'est le Rav appris. Pour me montrer. Je vous donnerai les références de Vaïkra. Je ne l'ai pas en tête. Je ne l'avais pas préparé parce que je ne pensais pas entrer dans ces détails. Je vous donnerai la référence exacte. Bon. Rashi montre qu'à lorsqu'un endroit on dit que les vêtements sont déposés là, ça veut dire parce que ces vêtements n'avaient plus leur valeur antérieure. Il dit Sham, c'est quelque chose qui n'a plus sa valeur antérieure. Alors, bien entendu, il a dit bon, si vous ne dépassez pas le stade du Homer, bien, Shom, c'est là-dedans que sera votre tombeau. C'est là-dedans. Si vous n'arrivez pas à transcender cela. Et alors, ensuite, j'ai trouvé un texte, c'est dans Eliyahu Titov, qui dit de fer rouge, en citant des commentateurs, plein de commentateurs que je ne connais pas et que je n'ai pas lu, qu'ils ont dit dans tous les endroits où les Juifs sont dans la galoute. Par conséquent, je vois que c'était le Tanhuma, j'ai bien compris. Mais je ne me serais pas permis de vous dire, voyez ce Shom-là, il correspond à ça, bien que. On a envie de le dire tout de suite parce que ça pourrait très bien parler de ça. Et c'est effectivement ça, c'est dans tous les endroits où vous serez en galoute, eh bien, la Torah orale sera votre salut. Et sans Torah orale, ça n'ira pas. Donc notre charme, il correspond bien à ça. Alors, vous voyez qu'il reste quand même des problèmes et qu'on a déjà apparemment vu premièrement quoi. Donc on a le Torah, et je crois que ce soir, M. Ansel va montrer cela, il faut bien distinguer Torah écrite, Torah orale. La Torah écrite, l'égoïme l'ont, tout le monde l'a. Et d'ailleurs, il y a une Gemara, c'est cité dans le Tanhuma, dans Shoftim, 17, lorsque Dieu a donné la Torah à Moïse, Moshe Rabbeinu a demandé à Dieu de marquer la Mishnah, c'est-à-dire le début de la Gemara par écrit. Et Dieu a dit non. Il m'a dit non, parce que tu vas voir ce que les actions du monde vont faire de la Torah écrite. Alors, je veux pas donner la Torah orale. Effectivement, et même plus, j'ai trouvé dans le Torah Shlema un texte qui dit qu'il a été interdit de mettre par écrit la Torah orale avant que la Emunat Edom, Ishmael soit considérant, soit constituée comme foi, que Edom soit constituée, c'est-à-dire que le canon de la théologie de Edom soit fixé. Bon, ils ont pris la Torah écrite, ils en ont fait ce qu'ils en ont fait, vous le savez. Qu'ils ne puissent pas utiliser non plus, travestir les textes, les transformer, les modifier, en faire, soi-disant, notre parole vue par eux, et que leur parole, c'est, soi-disant, ce que nous, on n'a pas compris, la synagogue aux yeux bandés. Alors, la Torah orale, ils ne peuvent pas faire ça avec la Torah orale. Donc, il y a une différence presque de nature, presque, entre Torah écrite et Torah orale. La Torah écrite, tout le monde. Et la récompense, dans la Mazé, vous l'avez vu, la récompense, c'est par grave du chemin, les récompenses. Donc, tout juif qui étudie la Torah écrite, bon, chacun d'entre nous peut faire ça. Au moins, le Shabbos, on peut pendant une heure étudier un peu la paracha avec Rashi. Alors, on a, grâce à ça, le monde subsiste. On a la pluie. Et la pluie, c'est fondamental pour la survie du monde. Mais la Torah orale, ça veut dire vraiment, c'est se consacrer à ça. Ça veut dire que c'est quelque chose qui consiste à se transcender. Je répète, ce n'est pas un travail surhumain, c'est un travail humain. Être surnaturel, c'est-à-dire au sens de dépasser la nature pour arriver à la Torah, c'est ça l'homme. Mais ce n'est pas donné à tout le monde, c'est pour ça que la Torah ne demande pas de tout le monde. Enfin, on m'a dit bien, pour tous les juifs, Torah Shebir, faites des mitzvot, c'est pour tout le monde. Étudier la Torah Shebir Tav, la Torah Shebal Peh, l'étudier vraiment, ça évidemment c'est destiné aux maîtres. C'est pour ça qu'il faut aussi des maîtres pour pouvoir le comprendre. Alors par rapport à notre problème, différence entre Torah écrite et Torah orale. Torah écrite, c'est facile. Encore que, aujourd'hui, c'est pas si facile que ça pour nous. C'est facile, donc ils ont accepté. Torah orale, c'est difficile. Mais déjà, nous voyons, les Juifs n'ont pas refusé. Ils pensaient qu'ils ne pouvaient pas. Alors, demain, nous verrons le Maharal. Je vous expliquerai demain pourquoi, parmi tous les textes du Maharal, je n'ai pris un. Non pas le texte classique dans Tiferet Israël, parce que là, dans ce texte où il explique notre Gemara, il ne fait aucune différence entre Torah écrite et Torah orale. C'est-à-dire qu'il n'introduit pas le thème de Torah écrite et Torah orale. Il explique la Gemara comme elle est. Dans notre Gemara, on ne parle pas de Torah écrite et Torah orale. Le Tanhuma est le seul endroit de la Torah orale de base, c'est-à-dire Gemara, Midrash, à ma connaissance en tout cas, et j'ai vérifié quand même dans toutes les sources, le seul endroit qui est cité où l'on fait cette différence, c'est Tanhuma. C'est pour ça que tous les commentateurs l'a dit. Or, la Gemara, comme vous la lisez, il n'est question nulle part. Or, Rashi, dont le Tanhuma est une des sources de base, ici sans arrêt, Rashi, dans son commentaire sur la Gemara d'hier, de Shabbat, nulle part ne fait allusion à Torah écrite, Torah orale. Il parle de Nasé ben Ishma. Mais il ne parle pas de Torah écrite, Torah orale. La Gemara même n'en parle pas. C'est Tanhuma qui en parle. Le Maharal, parce que Maharal a expliqué à un tout autre niveau de lecture. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi il était nécessaire, effectivement, qu'il y ait Kufiya, pourquoi il était nécessaire que la Torah soit donnée dans la nécessité, dans la par force, pourquoi c'était nécessaire, et en quoi ça n'exclut pas, et au contraire, pourquoi ça rend nécessaire aussi la liberté, l'adhésion libre d'Israël avant et après, ça nous le verrons demain. Mais, dans tous les textes où il parle de cela, il parle de la Torah en général. Et le seul endroit où il s'occupe également de cette distinction, c'est le début, comme par hasard, du livre consacré à l'explication du livre d'Esther de Purim, qui est le Or Hadash. C'est pour ça que c'est ce livre que j'ai choisi, non pas les autres, parce que le Maharal va nous expliquer d'abord le sens général de cette Kefiya, puis va nous dire comment il faut lire le Tanhuma. Puis comment il faut lire le Tosafot, le Tosafot, ce qu'on a vu tout à l'heure, puis comment il faut lire le Tanhuma, c'est-à-dire ce qu'il veut dire vraiment. Et là, nous verrons qu'en réalité, lorsqu'on parle de nécessité d'obligation, on parle sur trois registres différents. Tantôt on parle de l'obligation qu'il y a pour Dieu, tantôt on parle de la nécessité qu'il y a pour la Torah, vu l'essence de la Torah, et tantôt on parle d'Israël, vu ce qu'est Israël. Et en ce moment-là, on comprendra aussi pourquoi il a fallu attendre si longtemps. Et moi, je renverserai la question. Moi, je dirais, et pourquoi Dieu n'a-t-il pas attendu plus longtemps? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas attendu que Israël soit prêt, qu'il n'ait pas besoin de Kefiya? Voyez, on peut former la question comme on veut. Alors, voilà. Voilà, je crois pour aujourd'hui, les... à moins qu'il y ait une question, oui. Oui.
Un apprentisseur de la commune. Et puis, en fin de compte, nous voyons que nous avons le livre de la fin des temps. Propre du texte qu'on a appris sur Agamara. Et alors, on avait demandé, mais si c'est comme ça, alors pourquoi un exil intermédiaire qui est le deuxième dans le... Alors, c'est là que j'ai cité le principe qu'il y a deux voies. VOIS. Ou bien par le mérite. Et alors, les événements peuvent arriver le plus vite possible par le mérite, ou bien il n'y a pas suffisamment de mérite, les événements arrivent au temps fixé, et il y a donc deux séries de signes, si vous voulez, des époques possibles, et c'est le mérite qui commande, ou bien l'époque fixée, et qu'il y ait mérite ou pas, les signes sont là. Or, au temps de Bar Kokhba, Bar Kokhba aurait pu être le mérite. Si on l'avait mérité, c'est une occurrence possible. Donc, Rabbi Akiva avait raison de prendre l'initiative d'essayer, ça a échoué, pas parce qu'il s'est trompé sur les signes, mais parce qu'il n'y a pas eu de mérite suffisant. Est-ce que c'est bien clair? Et il y a eu, bon, de ça on ne parle pas, on n'a pas l'habitude de parler, mais on n'a aucune idée qu'il y a eu énormément, je ne dirais pas le chiffre, énormément d'époques jusqu'à nous où ça aurait pu être le cas si nous avions mérité. Et est-ce que c'est clair? Mais là, c'est pourquoi je vous parle d'une telle entièreté, si vous voulez, à l'époque actuelle, par rapport à ce qui se passe, enfin, d'après l'enseignement que j'ai reçu, il n'y a pas de question de mérite. Ça dépend plus de nous. Qu'est-ce qui dépend de nous? À quel prix ça se croit? C'est ce qu'on a étudié abondamment ce matin. Bon, alors je sais très bien qu'il y a tout un faisceau de résistance à culpabilité pour entendre. Pourquoi j'ai parlé moi de. Je ne vais pas parler de signes particuliers. Un seul, qui est frappant. La massivité des élèves. Le fait qu'il y ait un monde anti-contrôle.
Qu'est-ce que la question que, au point de vue de l'article, tu avais apposé au Rav Ovadia Yosef
en rappelle-moi de quelle question. Ah non, non, j'ai posé à mes rabbins, lui c'est le grand rabbin d'Israël, dont le Sparadim, j'ai posé à mes rabbins Sparadim, dont je suis la halakha, si sur ce point particulier, je pouvais aussi vous avoir donné. Et c'est tout ça, ça s'étudie en principe de halakha. Bon. Non, je voulais vous rassurer, je ne suis pas un hérétique, donc le Sparadim. Attends, peut-être un peu que ça se passe et j'arrive.
Reçu la Torah au moment de la révélation sinaïtique en expliquant trois mots d'un verset de la Torah qui dit « Il se tinrent sous la montagne ». Là, la Gemara, je n'y reviens pas, mais nous l'avons vu. Nous avons vu que le grand scandale apparent dès la première lecture de la première ligne, c'est le fait qu'il y ait kefia, il y ait obligation, que c'est imposé, alors que apparemment les Hébreux ont dit librement, d'abord, avant, Nase venishma, nous ferons, nous écouterons. Et nous avons essayé de voir aussi ensemble comment certains commentateurs, par exemple Rashbam, que j'avais cité, sur Narsé, sur Narsé Benishma, et les Tosafistes, essayaient d'expliquer que le Narsé ou le Narsé Benishma apparemment signifiait bon que Israël avait accepté, mais n'avait accepté que parce que ça venait de Dieu en tant que Hachem, c'est-à-dire Dieu miséricordieux, et que ça excluait l'acceptation des punitions, ou bien qu'ils avaient dit simplement d'Iber,
que Dieu a parlé, et non pas au futur que Dieu parlera. Et enfin, nous avons vu hier un texte fondamental dans le Midrash Tanhuma, dans lequel ce Midrash autonome, qui mériterait, comme je dis, une étude en lui-même pendant tout un énorme séminaire, qui traite très explicitement de Torah écrite et Torah orale à partir d'un problème de Noé. Noah, et les toldot Noah, Noah. Voici l'enfant de Noé, Noé. Et vous avez vu le Midrash Tanhuma, et puis on n'a pas la réponse à la question posée. Voici l'enfant de Noé, Noé. Et en fait, bon, la réponse, elle se trouve dans le fait que justement, un homme, par la Torah, s'auto-engendre. Il devient autre. L'homme, le premier Noah et le deuxième Noah ne sont pas les mêmes. Donc, à propos de Ele, Toldos, Noah, Noah, et voici l'enfant de Noé, Noé, c'est parce que, nous explique le commentateur, Noé a pris la Torah dans l'arche, avec tous les animaux qu'il s'est amené à avoir dans l'arche, etc. Bon, ça, c'est un autre thème en lui-même. Disons que c'est parce que Noé a appris de la Torah, et parce qu'il s'est investi jour et nuit, et le passage de Tanhuma qui précède celui-là raconte que pendant tout le temps qu'a duré le déluge, Noé, il n'a pas dormi une seconde, parce qu'il donnait à manger à chaque animal, ce que chaque animal avait besoin de manger, la nourriture spécifique, à l'heure du jour ou de la nuit à laquelle il avait dû manger. Il est dit, effectivement, il n'a pas fermé l'œil pendant tout le temps. Donc, on voit l'analogie entre le Tanhuma d'hier, qui nous explique qu'est-ce que c'est, s'occuper de Torah. Si c'est Torah écrite, bon, Torah écrite, chaque juif qui veut se donner le mal peut faire la Torah écrite. Mais la Torah orale, cela demande un investissement tel qu'il faut se tuer soi-même, se dépasser pour, en passant par la mort de ce qui dit en soi son équation personnelle et son équation de chomer, c'est-à-dire de matière, passer par une sorte de mort de la matière qui ne serait pas soumise à l'esprit pour arriver au spirituel qui domine la matière. Donc, créer un homme nouveau. En fin de compte, c'est là tout le programme de l'histoire du monde. Créer l'homme nouveau. Le Mashiach, c'est l'homme nouveau. Alors, donc, dans cet Tanhuma, on nous fait une différence entre Torah écrite et Torah orale, et, dit le Tanhuma, eh bien voilà, ça semble éclairer, expliquer le problème. La Torah écrite, c'est facile, il y en a peu, les Juifs vont l'accepter tout de suite. La Torah orale, qui est difficile, et qui demande un tel engagement, c'est pour cela que Dieu a été obligé de les forcer. Et tout de suite, pour éviter une lecture fausse, le commentaire d'Alchir, qui est cité en bas, et que je vous ai lu rapidement hier, me dit, mais ça aussi, il faut comprendre que ce n'est pas cet Israël qui était prêt, qui avait dit, Naase venishma pour la Torah écrite, ce n'est pas qu'il ne voulait pas la Torah orale, c'est qu'il pensait qu'il n'était pas capable de l'assumer, et que de peur de se trouver dans un état permanent pendant toutes les générations de fautes involontaires, il préfère par amour de Dieu. Mais vous vous souvenez, mais Ahavat Hashem. Alors aujourd'hui, nous allons prendre un texte qui va essayer de le lire, la Gemara, ou tout au moins ce problème monumental de cette opposition entre la liberté, le bon vouloir, la création libre d'Israël et le fait que la Torah est donnée par force, ce thème, nous allons essayer de le voir dans le Maharal. Bon, le Maharal, comme je vous l'ai dit, est un auteur du XVIIe siècle, et on aurait pu d'abord lire ou voir ou résumer les autres commentaires qui sont des commentaires partiels, et les relire une deuxième fois après le Maharal, quand on aura le temps, je vous propose de faire la solution inverse, d'étudier aujourd'hui ce texte du Maharal qui vous a été distribué et dont des exemplaires se trouvent au fond de la salle pour ceux qui viennent d'arriver. D'abord, et lorsque nous aurons vu la façon dont le Maharal explique le principe général, nous comprendrons comment les commentateurs et des commentaires apparemment discordants ou contradictoires, sincères, nous saurons de quoi il parle. Parce que le Maharal va nous montrer qu'en réalité, dans cette Gemara, et dans le problème qui est posé, il s'agit de plusieurs choses. Il s'agit tantôt Dans un don, quand on donne quelque chose, de gré ou de force, il y a celui qui donne. Moïse. Et dans ce cas, c'est Dieu, c'est Hachem qui est celui qui donne. Il y a le don lui-même, Matan, c'est la Torah. Et puis il y a celui qui reçoit, Mekabel, c'est Israël. Donc il s'agit de savoir, quand on parle de liberté, quand on parle de nécessité, de qui, de quoi parle-t-on? Est-ce qu'il s'agit par rapport à Dieu qui donne? Est-ce qu'il s'agit par rapport à la Torah, qui dit ce qui est donné et qui doit être reçu, ou qui va être reçu? Est-ce que c'est par rapport à Israël qui reçoit? Par conséquent, tant qu'on ne sait pas de quoi parle chacun des commentateurs, eh bien on ne comprend pas, ou on comprend de travers ce qu'il dit. Et ce que le Maharal va essayer de nous montrer, ce sont les différents donc aspects. Et pour chacun des protagonistes de ce qui se passe, l'attitude. Alors, le Maharal traite explicitement et en détail du problème de cette kefia, en particulier dans deux endroits auxquels il renvoie d'ailleurs, normalement, c'est dans le Tiferet Israël, qui est apparu en 1599, le chapitre 32. Il consacrait entièrement à ça, il n'est pas très long, il y a deux pages, et également, il traite de cela dans un commentaire sur Rashi, donc qui se trouve dans l'Exode. Vous savez que Rashi lui-même a été commenté par à peu près 250 commentateurs. Je ne parle que des commentateurs qui ont commenté spécifiquement Rashi, mais qu'il n'y a pas un seul commentateur qui s'occupe d'un problème de Torah quel qu'il soit, qui ne soit pas amené à citer Rashi ou à se poser des questions sur Rashi. Il y a donc 250 commentateurs sur Rashi. Et parmi les grands commentaires sur Rashi, qui se trouvent d'ailleurs certains imprimés dans des livres spéciaux, nous avons en général dans un microbe d'os et dans une Torah qui se présente avec des commentaires, on a Rashi, il y en a à côté, Siftei Chachamim, il y a lui-même déjà un auteur du XVIIe siècle qui a rassemblé des extraits des principaux commentateurs, mais il y a des éditions spéciales qui donnent les quatre grands commentateurs, Mizrahi, Siftei Chachamim, le commentateur du Maharal et le Bouchari. Alors, le commentateur du Maharal sur Rashi s'appelle le Gourarié. Et dans ce commentaire auquel il renvoie, pour ceux qui s'intéressent, je les ai là, ils pourront prendre la référence tout à l'heure, ou demain, dans son texte, il y a une chose frappante, c'est que aussi bien dans le chapitre 32 du Tiferet Israël, où il étudie donc de façon systématique ce problème, pourquoi est-ce que il y a l'opposition entre une libre acceptation apparente et au contraire une kefia. Alors dans ce chapitre, donc, il y a deux pages, il n'est pas question de Torah écrite et Torah orale. Le Maharal parle de Torah en général, comme dans notre texte de Gemara. De même, dans le Gourarié, dans le commentaire qui se trouve donc dans son commentaire qu'il donne sur le Gourarié, c'est vrai en tout petit là, il y a un énorme développement qui reprend après pratiquement ce qu'il dit dans le Tiferet Israël. Il n'est pas question de Torah écrite et Torah orale, de loin, de la différenciation entre les deux. J'ai donc choisi un autre texte, celui que je voulais distribuer, dans lequel incidemment, le Maharal traite cette question, mais la traite complètement en tenant compte du problème, la différenciation de l'écrit et l'oral. Et comme nous avons étudié intensément le Tanhuma hier, j'ai donc choisi ce texte du Maharal qui n'est pas le texte que l'on prend habituellement pour étudier ce problème, parce que ici, il va nous montrer, donc dans un texte qui, vous verrez, est assez fin, difficile, il va nous montrer à la fois les aspects généraux par rapport à la Torah et les différences par rapport à Torah écrite ou Torah orale. Vous verrez que le problème général se pose à la Torah par rapport à la nature propre de la Torah et par rapport à Dieu qui le donne, mais que la différence entre la façon dont la Torah écrite et la Torah orale ont été reçues se pose par rapport à l'être d'Israël, de celui qui reçoit. Est-ce que c'est clair? Donc c'est pour cela que quand le Maharal traite en général de ce problème, le problème de notre Gemara, eh bien, il s'occupe uniquement du problème de la Torah en général. Mais ici, où il va tenir compte également du Tanhuma, il va nous expliquer comment pour Israël, il y avait une différence, qui nous permettra de comprendre, demain j'espère, les commentaires apparemment divergents qui traitent de cette question. Alors, pourquoi avoir choisi le Maharal plutôt que d'autres? Eh bien, parce qu'effectivement, le Maharal fait partie de ces grands parmi les géants. Rabbi Ashkenazi parlait un jour, au début de ce séminaire, ou du dernier séminaire, des grands qui ont une vision historiographique de l'histoire. Il disait Yehuda Lévi, le Maharal, Monsieur Gordin. Effectivement, c'est pas par hasard que c'est Jacob Gordin, qui a réintroduit en Europe occidentale l'étude du Maharal qui avait été complètement perdue et oubliée. C'est pour cela qu'il y a une école française, comme vous savez, d'études maharaliennes, et que maintenant le Maharal, d'ailleurs, a été réédité, réimprimé, et est étudié dans le monde entier. Mais le mérite en revient à M. Gordin et à Rav Ashkenazi, qui a donc fait étudier à ses élèves le Maharal. Et je me souviens encore à l'école d'Orsay, lorsque Rav Ashkenazi faisait étudier le Maharal à ses élèves, dans la communauté même orthodoxe de Paris, on se demandait pourquoi il perd son temps à étudier le Maharal au lieu de faire tout simplement du Talmud avec les gens. Là, peut-être pour comprendre le Talmud, il faut étudier le Maharal. Alors nous attaquons donc directement ce texte du Maharal. Alors comment se présente ce texte ici? Comme je vous l'ai dit, il ne s'agit pas apparemment d'une étude systématique de la question, puisqu'elle a été traitée par ailleurs, elle a été traitée déjà auparavant, et que le Or Hadash est postérieur au point de vue date d'édition. Si je me souviens bien, il a été publié en 1600, donc c'est un des livres postérieurs, donc il n'a pas besoin de retraiter ce sujet. Et ça se présente comme ça. Le Or Hadash, c'est un commentaire, c'est un gros livre, un livre très épais, qui commente verset par verset le livre d'Esther, le Megillat Esther. Et il y a une préface. Une préface très longue, qui a à peu près 25 pages. Et dans la préface, il commence par expliquer pourquoi il a appelé son bouquin Or Hadash. Et c'est dans l'explication qu'il donne, dans les deux premières pages, de la raison pour laquelle il a appelé son bouquin Or Hadash, qu'il va traiter incidemment de notre problème, et c'est ça que nous allons lire ensemble. Alors, je vous donne un petit peu le plan. Il dit d'abord, voilà, il a appelé ça Or Hadash, lumière nouvelle, parce qu'il y a un verset qui dit « Ner mitzvah de Torah Or », le commandement est un lumière, mais la chose concrète, le flambeau, le luminaire, la chandelle, n'est-ce pas, ce qui brûle, la chose concrète, le Torah Or et la Torah est lumière, c'est la lumière de base, celle qui, dont la mitzvah est l'émanation concrète, et comme par hasard, c'est-à-dire pas par hasard, Ner mitzvah est le titre de son commentaire sur Hanouka, nous avons étudié avec Rav Ashkenazi ensemble la dernière fois, et Ner Mitzvah, la lumière du commandement, la lumière de Hanouka, et Or Hadash, la nouvelle lumière, pourquoi? Eh bien, le Maharal part d'un verset de Megillat Esther qui dit que lorsqu'il y a eu cette délivrance, après le miracle que nous serons amenés à revenir, le miracle caché de Purim, eh bien, il y a eu, dit un verset de la Megillah, la Yehudim hoiso oro le simcha ve soson dekor. Et vous savez que cette formule est pour les Juifs, il y eut lumière et joie et réjouissance et préciosité, traduit préciosité, vous allez voir pourquoi, chose précieuse, a été introduit par les sages dans la bénédiction de Havdalah, que nous faisons après Shabbat, et tout le monde, comme vous savez, répète cette formule d'abord, avant celui de dire voilà. Alors, le Maharal va expliquer, va reprendre la Gemara, qui explique ces quatre mots. Qui dira Torah, qui dira Ora, lumière, c'est Torah. Ora, c'est Torah. Souson, c'est les jours de fête. Icor, c'est les tfilis, etc. Alors, nous n'allons pas nous occuper de cette dernière partie. Et le marin va dire, bon, on comprend de dire pour les juifs, il y a eu Ora, il y a eu Torah, il y a eu Yom Tov, on a eu jour de fête, il y a eu, ils ont mis les tfilines, ils ont pris sur eux la Torah, ils ont accepté tout cela. On comprend pour dire que c'est grâce à ça qu'ils ont vaincu Amman, c'est parce qu'ils ont fait. Mais comment peut-on dire que c'est grâce à la Torah, si on dit que Ora c'est Torah, comment est-ce qu'on peut dire que c'est grâce à la Torah qu'ils ont vaincu Amman? C'est évident que tout ce que réussit Israël ne peut être réussi que grâce à la Torah, c'est pas la peine de le dire. Ça paraît superflu que la Gemara va interpréter cette façon suivante. Alors, aussitôt, il embraye en disant, mais de quoi s'agit-il quand on parle de Torah? Pourquoi est-ce que c'est quand même dans ce verset de la Megillah qu'il est nécessaire de dire qu'il y a Torah? Et vous voyez comment ça se rejoint à notre sujet, puisqu'on nous dit que c'est à l'époque de Mordechai que cette réception forcée de la Torah qui a donné une équivoque apparente, moda, contestation possible, cette hypothèque a été levée le jour où Kimou veut Kiblou à Yehudim, où les Juifs ont accompli les reçus, et on nous avait dit Kimou, Mashi Kiblou Kfar, ils ont accompli ce qu'ils avaient déjà reçu auparavant. Par conséquent, c'est donc bien, il y a bien eu Torah ce jour-là, et c'est pourquoi le Maharal va l'expliquer. Alors, il va reprendre donc l'essentiel de notre Gemara Shabbat, puis va citer le Tosfot, et vous verrez dans un premier temps, par conséquent, il ne s'occupera pas du Tanhuma, il parlera de la Torah en général, comme il l'a fait dans ses livres précédents. Et puis il va dire, oui, mais il y a un Tanhuma qui semble introduire une différence. Alors, au niveau de différence, ça concerne le Mekabel, il ne dit pas explicitement, mais vous verrez que ça ressort nettement. Et alors, pour Israël, on va comprendre pourquoi pour la Torah écrite, il y a eu apparemment acceptation libre, et pour la Torah orale, acceptation forcée. Alors nous commençons la première partie. Là, tout le monde a un texte, sinon il y a des textes qui sont au fond. Or, Rodosh. Pirouche, Amegilas Esther, Nikro Bechem Agri, que de Amrinon. Bon, lumière nouvelle. Mon commentaire sur le livre d'Esther est appelé de ce nom, comme nous disons dans la Megillah, lisons dans le Talmud de la Megillah, les Yehudim Roisohoro, citation d'Esther, Omar Rabbi Elozor, Amar Rabbi Yehuda, Oro Zo Toro. Pour les Juifs, il y avait lumière, etc. Rabbi Elozor a dit au nom de Rabbi Yehuda, Ora Zo Toro. Lumière, ça veut dire joie. Chez Neymar.
Non, ça veut dire Torah.
Là-dessus, merci. Ora, c'est Torah. Lumière, ça veut dire Torah. Chez Neymar, comme il est écrit, Kiner mitzvah de Torah or, car la lumière est un commandement, le commandement est un flambeau et la Torah est lumière. Veyesh lishol hare, kvar hoyolohem ha Torah misinai. Et il y a lieu de poser une question. Pourtant, les Juifs avaient déjà la Torah depuis le Sinaï. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont eu tout d'un coup, il y a eu pour les Juifs, tridouche, il y a eu nouveauté. Il y a eu quoi? Il y a eu lumière, il y a eu joie, etc. On joue, on comprend. Ils étaient condamnés à mort, ils ont été sauvés. C'est normal. Il y a eu autre chose, et c'est les moyens par lesquels ils ont été sauvés. Mais dire qu'il y a eu Torah, là, on ne comprend pas. Il y a un Maharal. Puisque la Torah, il l'avait déjà depuis le Sinaï. Bishvil ma chez Omar de Souson, Zohamila. La raison pour laquelle il dit Souson, la joie, c'est la Mila, le Khen, Vihikor, et la préciosité, c'est les Tvilines. De Varze Yidboer de Samour, ça, il expliquera après. Bon, c'est pas ce que nous ne ferons pas, qui est intéressant lui-même et qui ne touche pas à notre sujet. Après ce que nous lirons, le Maharal va finir d'expliquer pourquoi, dans une cohérence rigoureuse de la Gemara, on peut dire effectivement que le joie c'était Mila, c'est grâce à la Mila qu'ils ont été sauvés, c'est grâce au fil, etc. Bon. Mais bon, ça on comprend. Kibishvil, etc. Mitzvot,
mitzvah hamila ou bishvil mitzvah hatzfilin, ou yu govrim al homon. Car c'est grâce au, à la mitzvah de la circoncision et des tfilines qu'ils ont pu dominer, ils ont pu dominer Haman. Aval, mais de dire, là, ils ont dit, mais de dire, oh, les juifs avaient la lumière. Et dire la lumière, ça veut dire la Torah. Nire, chez elle, le farech, bishvil la Torah, ou yu govrin al roman. On ne peut pas expliquer que c'est grâce à la Torah qu'ils ont vaincu Haman, qu'ils aient et ils sourire l'Omar. Car ça, c'est pas la peine de le dire, ça ne veut pas dire. Attention, ne faites pas dire Omar qui ne dit pas, Amara ne dit pas que ce n'est pas grâce à la Torah qu'on a vécu Haman. Bien sûr que c'est parce que c'est spécifiquement grâce à la Torah qu'on a vécu Haman. Ce qui veut dire, c'est de dire, les Juifs ont reçu la Torah parce que ce n'est pas la Torah qu'ils ont vécu Haman. Vaincu Haman, ça, ça va de soi. C'est pas un ridouche. Je veux dire qu'ils ont renouvelé la circoncision, ils ont renouvelé les tefillines. D'accord, mais de dire la Torah, ils l'avaient depuis le Sinaï. Et si le mérite des Juifs ne peut provenir que de la Torah. Donc dire ceci, c'était inutile parce qu'on le comprenait. Faudra que soi-même et la Torah et la Gemara ne viennent pas pour faire des tautologies, pour répéter ce qui va de soi. Car tout le mérite qu'il y a pour Israël, tout, c'est la Torah. Le char, le royat sourire, l'irsofze. C'est pourquoi il était inutile d'écrire cela. Alors, c'est là que je vais faire le sujet. Avant le ma, chez Omar, Orazou, à Torah. Mais il dit quand même, donc il faut quand même l'expliquer, le fait qu'il dise lumière, c'est Torah, que d'Armina de Neseret Shabbat, et c'est comme nous trouvons dans la Gemara Shabbat. Alors moi, je vous ai souligné, c'est moi qui ai souligné, les citations du Maharal pour faciliter, les citations que le Maharal fait d'un texte de Torah ou de Gemara, je vous ai les soulignées dans l'édition, évidemment, ce n'est pas souligné. Quand il est écrit dans la Gemara Shabbat, eh bien quoi ? Et ils se tinrent dans le dessous de la montagne, mais là, chez Kofo Alehem, Hafegigis, cela enseigne que Dieu a renversé sur eux la montagne comme un baquet. Le Omar Lohem, il leur a dit, Imatem Kablima Torah Mutov, si vous l'acceptez la Torah bien, le Imlov, Shom Te Kouvrasrem, et sinon là sera votre tombeau. Omar Rabachobar Yaakov, Rabachobar a dit, Nikon Modo Arabo Lorasso, de là il y a une grande protestation vis-à-vis de la Torah. Omar Rovo a ajouté, Aval Pikein, même si on est ainsi, Hadur Kabluo Bimur Hashverosh. Les Juifs l'ont re-accepté à l'époque d'Assuérus, comme il est dit, Esther 9, 27, Kimou et Kiblou, Kimou Mash et Kiblou Kvara, ils ont accompli ce qu'ils avaient accepté, c'est-à-dire ils ont accompli ce qu'ils avaient accepté auparavant. Atkan, fin de citation. Bon, nous avons donc, le Maharal pose le problème de notre Gemara. C'est tout à fait notre sujet. Donc, Imkei, Vehagrei, Atkan, pardon, fin de citation. Vehagrei, Chazrou Israël, Vekiblou Atora, Imlav, Hareyej, Modoa, Rabal, Oraïko. Et voici que, les Juifs ont reculé, ont changé d'avis. Chazrou. Le Kiblou la Torah, avant de recevoir la Torah. Imlav, Hareyesh, Modoa, Rabo, Loraïsa. Et sinon, il y aurait ici une protestation possible vis-à-vis de la Torah. Le Houtzrechou, l'Arzor, ou le Kabloua. Et il était, il y avait là, ils avaient besoin de reculer avant de le recevoir. Le Tosafot Hokshushom, et le Tosafot a déjà posé, a déjà soulevé la difficulté qui se pose là, en disant, c'est le texte que nous avons vu ensemble hier, le Halokvar Kikdimunase, le Nishma. Est-ce qu'auparavant, il n'avait pas déjà dit « nous ferons », avant même de dire « nous écouterons », le tirtsu à Tosfos, et les Tosfos ont répondu de façon suivante, « le shemo hoyu rozrim bohem, que shiro roesha godoyla », et en réalité, Dieu a fait cela de peur que les Juifs ne soient amenés à reculer, à changer d'avis, lorsqu'ils verront le grand feu. Le haut de Omar, et ce qu'il est dit dans la Gemara de Avodah Zara, je vous ai parlé hier, c'est-à-dire le dialogue qu'il y a avec l'immersion du monde, Klum kofisu aleinu hap gigis, est-ce que tu as renversé sur nous la montagne comme un baquet, machma, c'est-à-dire, im royokofe aleinu hap gigis, si Dieu leur avait renversé les nations du monde, également la montagne comme un baquet, le royaume Shuvah, ils n'auraient pas pu répondre qu'ils ont une raison de ne pas avoir reçu la Torah. Verhocho est ici dans notre Gemara, nous étudions de Shabbat, Omar de Modo Arabol Oraiso, Choroyo Chosrim Bohem, qu'il y a une contestation possible parce que les Juifs ont reculé, mais ils l'ont reçu quand même. Hoïnou, c'est-à-dire en ce qui concerne les nations du monde, là-bas, al-shelo kiblo, la réponse aurait été sur le fait qu'ils n'ont pas reçu. Enfin, ma-shelo kimo, iko-tshuvo, mais le fait qu'ils n'ont pas accompli la même protestation reste, aussi bien pour Israël, et elle resterait aussi pour les nations du monde, même s'il avait reçu de force, il se trouvait dans la même situation que les Goïms. En plus, eux peuvent dire même, nous ne l'avons pas reçu du tout. Fin de citation. Alors le Mara va d'abord s'efforcer d'évacuer une lecture erronée de cette sa faute avant d'attaquer le fond du problème. Alors nous le suivons. Ça, c'est simplement l'introduction. Fin de citation. « Atkan divrei Tosfos ». Alors nous sommes là, le haut de la deuxième colonne, donc la première page. Et à la vérité, cette réponse, telle qu'elle est lue comme cela, n'est-ce pas, ça veut dire, sous-entendu, si on la lit comme ça, sans essayer de comprendre ce qu'elle veut dire vraiment, elle est très difficile, elle apparaît comme très difficile. Kima, shehigdimu Yisrael, nasele nishmor, hu zechus hagudo shel Yisrael. Car le fait que Israël ait dit, nous ferons aveuglément, apparemment, et nous écouterons. Eh bien, ça, c'est le grand mérite d'Israël. C'est ça le grand mérite d'Israël. C'est ça qui montre qu'Israël a librement accepté la Torah, et c'est ça son grand mérite. Le Eir Neymar Shehoyu Rozrim Mima Shehomruna Sevenishma. Et comment pourrait-on dire qu'ils ont changé d'avis, qu'ils se sont retirés de ce qu'ils avaient dit, Nasev Nishma, nous ferons les écouterons. Et Shom est là-bas, comme je vous l'ai cité hier, dans la Gemara, nous avons étudié, je vous ai dit qu'à la suite de la Gemara, cette Gemara donc qui raconte cette Keshia, on continue à nous faire les louanges d'Israël. Qu'est-ce qui est dit dans la même page? Vous l'avez d'ailleurs dans votre texte ponctuel, vous pouvez le revoir chez vous, c'est le paragraphe qui suit la Gemara que nous avons étudié. Il y a un paragraphe dans lequel on dit « Omar nimshulu Israël le sapoir ». Israël est comparé à une espèce spéciale de fruit. Bon, c'est une pomme, mais les Tosfos nous expliquent que ce n'est pas une pomme, c'est un cédra. Donc, à une espèce spécifique de fruit qui se caractérise de façon suivante. « Ma sapoir pirio kodem le olof » ce fruit est caractérisé par le fait qu'il porte des fruits avant de donner ses feuilles. C'est-à-dire que c'est un arbre qui pousse de telle façon que le fruit reste encore sur l'arbre, de sorte qu'à l'année suivante, les fruits apparaissent, ils sont encore là, avant les feuilles. Donc, là, c'est Benishma, c'est-à-dire Israël a donné le fruit avant même la feuille. Donc, tout ceci, la Gemara continue, Af Israël, Pigdimu Nasser Nishma, Israël de même a dit Nasser en Nishma. Donc le maracite, simplement pour vous dire, voyez, mais de quoi il s'agit? On vient de nous dire, ils ont dit Nasev Venishma. La Gemara nous raconte ensuite que Dieu a dû les forcer. Et qu'est-ce que la Gemara dit tout de suite après? Regardez les grandes louanges d'Israël. Israël, c'est bien le peuple de Nasev Venishma. ולפי התוספות, הרי היו חוזרים בהם